Bienvenue dans notre podcast avec la Chambre des notaires du Bas-Rhin. Avec nous, maître Antonia Calderoli-Lotz, pour nous donner les clés de notre premier achat immobilier. L'attrait pour la pierre est toujours là, la demande des biens immobiliers est actuellement forte malgré la crise Covid. Maître Calderoli-Lotz, quelles sont les bonnes raisons d'acheter plutôt que de louer ?
Alors, bah, acheter, c'est toujours bien parce que ça vous permet de constituer un patrimoine, ça vous permet de faire une épargne forcée quelque part. C'est, vous faites un prêt, donc vous le remboursez tous les mois, donc il y a une épargne forcée. Et puis après, si vous le mettez en balance par rapport à la location, il faut regarder si, dans votre cas précis, c'est plus intéressant de louer ou d'acheter. Alors, pourquoi et que regarder comme critère ? Le critère à regarder, c'est la durée de propriété, en fait. Combien de temps on va rester propriétaire ? Si vous voulez acheter pour 2 ans et revendre, ben, c'est pas forcément intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il y a des coûts lors d'une acquisition. Il y a les frais de notaire, il y a les frais d'agence, il y a les frais le coût du crédit, les frais financiers. Enfin, les frais que vont vous demander la banque. Et tout ça fait qu'il faut amortir un petit peu ses coûts et on dit qu'il faut rester propriétaire à peu près 5-6 ans. Mais tout ça, c'est vrai sans prendre en compte une plus-value qu'on pourrait faire éventuellement. Si vous faites une grosse plus-value lors de la revente, ben 2 ans, finalement, c'est peut-être suffisant. Donc, c'est vraiment à regarder au cas par cas.
Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la plus-value possible, par exemple, à Strasbourg, en 10 ans, de combien les prix ont progressé ?
Alors, les prix sur Strasbourg, toute la ville, hein, sans prendre par quartier, en 2011 étaient de 2310 euros le mètre carré et ils sont aujourd'hui à 2940 euros du mètre carré. Donc, on voit qu'il y a une progression à peu près de 25%.
25% en 10 ans, c'est intéressant.
Oui, c'est une forte augmentation. On peut aussi se dire que si on regarde plus précisément les quartiers, la Petite France a beaucoup plus, le centre-ville, hein, l'hypercentre, a beaucoup plus augmenté que le reste. On passe de 2675 euros le mètre carré à 4560 euros le mètre carré. Et après, Neudorf aussi une plus grosse progression puisqu'on était à 2252 euros du mètre carré contre aujourd'hui 3123 euros du mètre carré. Donc augmentation quand même de l'immobilier sur Strasbourg.
Alors, on a un projet immobilier en tête, mais parfois on peut douter de pouvoir le financer. Une chose est sûre, les taux d'intérêt sont toujours historiquement bas, mais l'accès au crédit est-il rendu plus difficile actuellement ?
Alors, le Haut Conseil en stabilité financière a donné des règles à respecter, enfin des préconisations à respecter pour les banques depuis à peu près décembre 2019. Début d'année, ce Haut Conseil a assoupli un petit peu les critères. Les critères, ils vont être quoi ? Ça va être l'apport. Ils vont regarder l'apport financier que vous avez, l'apport pour l'acquisition. Ils vont regarder votre taux d'endettement et la durée du crédit. Aujourd'hui, le Haut Conseil préconise un taux d'endettement de 35% et une durée maximale de crédit de 27 ans. Ils ont une latitude pour ces dossiers, pour déroger à ces critères, d'à peu près 20% sur la masse des dossiers.
Alors dans le budget, vous l'avez dit, il y a le prix au mètre carré, mais il faut compter les frais annexes, intérêts du crédit, les frais notaires, ce qu'on appelle les droits de mutation. Après achat, on devra aussi payer la taxe foncière. Donc il y a le prix du mètre carré à Strasbourg et il y a aussi le prix du coût réel qu'il faut considérer, c'est ça ?
Exactement, donc il faut bien ajouter les coûts annexes, les frais notaires notamment. Donc vous allez avoir 7,5% pour une acquisition dans l'ancien, donc 7,5% du prix de vente de l'immobilier, on va en retirer le mobilier dessus, et dans le neuf, on va être à peu près à 3,5% du prix de vente. Il y a effectivement tous les frais subsidiaires à rajouter, et c'est pour ça que c'est bien de faire son budget avant de chercher, de prospecter, d'aller visiter. Il faut établir vraiment une enveloppe avec l'apport que vous pouvez avoir, apport qui peut être lié à votre épargne ou à l'apport que vous, la donation que feraient vos parents, grands-parents, donation familiale, et donc bien réfléchir à avant de chercher, à aller voir votre banquier et de dire voilà qu'est-ce que je peux emprunter, combien je peux emprunter et déterminer votre assiette comme ça d'acquisition.
D'acquisition. Sur les tendances, sur les prix, vous m'avez donné donc les tarifs sur Strasbourg. Concernant les grandes villes d'Alsace, c'est assez disparate.
Effectivement, on a des chiffres hein, qui nous sont donnés donc, par les bases de données des notaires. Mulhouse, on est à 1160 euros du mètre carré en moyenne. Colmar, on va être à 2100 euros du mètre carré. Après, on re-rentre dans l'Eurométropole de Strasbourg et on augmente de nouveau puisque Ilkirch, ça va être 2680 euros du mètre carré, Schiltigheim 2340 euros du mètre carré et après Agno, on est à 2170 euros du mètre carré, donc on voit quand même des prix assez élevés. Hein.
Est-ce qu'il faut acheter plutôt dans le neuf ou plutôt dans l'ancien ? Que conseillez-vous ?
Alors, les deux acquisitions ont des avantages et des inconvénients, au-delà du goût hein, qu'on peut avoir pour l'ancien ou pour le neuf. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a déjà une différence, puisqu'on parlait de frais de notaire, il y a une différence entre le neuf et l'ancien, on l'a dit. 7,5% pour l'ancien, 3,5% en moyenne pour le neuf. L'avantage du neuf, c'est qu'il ne va pas y avoir de problème de travaux dans les années qui vont suivre. En revanche, quand vous achetez dans l'ancien, rien ne dit que la chaudière, elle ne va pas casser, que vous allez être obligé de la changer. Donc ça, c'est à prendre en considération. Et après, la différence encore entre le neuf et l'ancien, c'est quand vous achetez dans l'ancien, vous allez partir avec les clés de l'appartement quand vous signez chez le notaire. En revanche, dans le neuf, vous n'allez pas partir avec les clés. Vous allez avoir une date de livraison qui va être indiquée dans l'acte de vente en l'état futur d'achèvement, dans l'acte de vente, date de livraison qu'il faut anticiper, parce qu'il faut se loger entre le moment où on achète et le moment où on va être livré. Et cette date, elle peut éventuellement changer si le promoteur rencontre des déconvenus lors de la construction, lors du chantier. S'il y a des cas de force majeure, des intempéries, des grèves, il a le droit de prolonger un petit peu ses délais. Donc il faut être bien installé avant d'acheter dans le neuf. En tout cas, bien anticiper la date de livraison.
Et quand on achète du neuf, il ne faut pas être pressé pour le revendre ?
Alors, il y a peut-être, on parlait du coût d'amortissement de tout ça. Oui, effectivement, il faut peut-être rester propriétaire un peu plus longtemps que dans l'ancien. Et encore, ça va dépendre aussi des secteurs. La réponse ne peut pas être vraiment linéaire.
Après un coup de cœur pour un appartement ou une maison, avant de signer la promesse de vente, quelles sont les choses à vérifier ou les documents à exiger pour ne pas avoir de mauvaises surprises ?
Alors, les documents qui sont à exiger, mais qui sont donc obligatoires du fait de la loi, c'est les diagnostics. Diagnostic immobilier, donc vous allez avoir l'amiante, le plomb, thermite, mérule, diagnostic de performance énergétique, état des risques, j'en oublie forcément, gaz, électricité. Donc tout ça, il faut bien les étudier. C'est important de regarder ce qu'on achète et de bien vérifier ses biens. Après, il y a d'autres choses à regarder pour un acheteur. Il y a le voisinage direct. Vous avez un terrain en face de votre maison que vous avez acheté. Ben, c'est peut-être bien de voir ce que va devenir ce terrain. Est-ce qu'il y a un projet privé ou public qui est envisagé dans les prochaines années ? Les points à vérifier, ils diffèrent également selon l'acquisition d'une maison ou d'un appartement. Un appartement, vous allez avoir des documents obligatoires également concernant la copropriété. Ça va être le règlement de copropriété qu'il faut regarder, mais aussi les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années. Très important de bien regarder ces documents parce que vous allez prendre le pouls, l'ambiance de la copropriété, mais aussi vous allez pouvoir voir s'il y a eu des demandes de travaux qui ont été effectuées, demandes de travaux qui n'ont pas forcément été votées et qui vont se reporter pour vous les prochaines années, forcément.
Oui, alors sur ces PV, on va pouvoir voir si des travaux de toiture sont prévus ou des ravalements de façade.
Exactement. Vous allez pouvoir voir s'ils ont été prévus, votés, ou si ça a été ajourné parce qu'il y a quelqu'un qui a voté contre, ou plusieurs personnes qui ont voté contre. Et donc de ce fait, ce n'est pas pour ça que les travaux ne sont pas nécessaires et qu'ils ne vont pas arriver les prochaines années. Vous avez le carnet d'entretien également de l'immeuble qui va vous montrer les travaux qui ont eu lieu les dernières années et qui va vous permettre de vous faire une opinion sur l'état du bien.
Oui, parce que parfois, c'est pas des frais c'est des frais non négligeables.
Hein, exactement, exactement. La toiture, comme vous le disiez, ça peut être le ravalement de façade, ça peut être des coûts très importants. On va avoir les mêmes sujets sur la maison, mais différemment, puisqu'il n'y a pas de carnet d'entretien, il n'y a pas de procès-verbaux d'assemblée générale. Donc, il va falloir interroger le vendeur, lui dire, mais qu'est-ce que vous avez fait, vous, de quand date le ravalement de façade, de quand date le changement de la chaudière, toutes ces choses-là, il faut poser des questions. Après, il faut sans doute exiger également les factures des 10 dernières années pour pouvoir vérifier que les travaux qui ont été effectués sur la maison n'ont pas nécessité d'autorisation d'urbanisme qui n'aurait pas été demandée ou qui aurait été mal demandée. Tout ça, c'est important à vérifier, de vérifier tout ça quand vous achetez. Petite précision, si vous le permettez, concernant le diagnostic de performance énergétique. Récemment, le législateur a rendu le critère de performance énergétique obligatoire pour la notion de logement décent. Quand on loue un bien, il doit être décent. À partir de 2023, ça va rentrer dans ces critères. Donc quand vous achetez un bien, il faut bien regarder la performance énergétique. Il faudrait éviter d'être en F ou en G, ou en tout cas, vous savez, ces grilles qui vont de A à G en notation. Ou en tout cas, si vous l'achetez, il faut prévoir également dans votre budget, si vous voulez le louer, de faire des rénovations énergétiques dans l'avenir.
Attention, F ou G.
Voilà.
Pensez-vous qu'avec la crise sanitaire, avec les confinements, le télétravail, ça a rebattu les cartes de manière pérenne sur les achats immobiliers? On quitte les villes pour la campagne. Est-ce que les prix des maisons à la campagne ont grimpé en Alsace?
Alors oui, effectivement, on voit une volonté de la part des gens d'avoir un bout de terrain, un jardin. Le fait d'avoir été enfermé comme ça, ça a donné envie d'un peu d'air, d'oxygène. Donc la maison individuelle a vraiment le vent en poupe. Donc on voit une augmentation, effectivement, dans certains quartiers, Robertsau, mais même dans la périphérie strasbourgeoise, d'augmentation du coût des maisons. Alors après, vous me dire si c'est pérenne ou pas, j'en sais rien, puisque l'appartement strasbourgeois a toujours la cote et on a toujours du mal à trouver, à acheter.
Est-ce que ces prix sont surévalués pour ces maisons ?
Surévalué, c'est le prix du marché. Donc, à partir du moment où vous avez une demande, c'est le prix, c'est le juste prix.
Je voulais revenir aussi donc, sur l'acte d'achat. Par exemple, pour un jeune couple, l'un a un apport conséquent, l'autre n'en a pas. Comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous conseillez en tant que notaire ?
Alors, tout va dépendre de leur statut juridique. Est-ce qu'ils sont mariés, pas mariés ? S'ils sont mariés et qu'ils sont mariés sous régime de la communauté, de toute manière, pas le choix, ils achètent pour le compte de la communauté. En revanche, il faut dire au notaire, moi j'ai un apport de deniers propres pour que le notaire puisse l'indiquer dans l'acte et que ça reste inscrit. Si vous êtes marié sous régime de la séparation de biens ou le régime de la participation aux acquis, ou encore que vous êtes pacsé ou concubin en union libre, vous allez être soumis au régime de l'indivision, régime juridique de l'indivision. Et il faut bien déterminer les quotes-parts d'acquisition de chaque personne, en fonction, comme vous le disiez, de l'apport de chacun, mais également en fonction du remboursement que vous allez faire du prêt immobilier. On n'est pas obligé de rembourser moitié-moitié. Donc tout ça va avoir une influence sur votre quote-part d'acquisition, déterminée par le notaire, par exemple, enfin avec le notaire. Et ce n'est pas obligatoire de le déterminer tout de suite au moment de la signature de l'avant-contrat. Au compromis de vente, ce n'est pas forcément utile. Ça l'est en revanche impérativement pour l'acquisition finale chez le notaire.
L'achat immobilier, on peut dire que c'est la porte d'entrée vers le notaire, c'est souvent le premier contact et après les choses s'enchaînent, c'est ça ?
Exactement. C'est-à-dire que on va acheter un bien, le jeune couple va acheter un bien immobilier, il va dire mais comment je fais pour protéger l'autre ? Eh bien pour protéger l'autre, il faut faire un pacte, il faut faire un testament, il faut peut-être se marier, quelle est votre situation familiale ? Donc c'est le premier contact qu'on va avoir effectivement avec des jeunes et c'est le début de nombreux conseils, puisqu'il n'y a pas que l'immobilier chez le notaire, il y a plein d'autres domaines qui font qu'on a besoin d'avoir des conseils juridiques.
Merci beaucoup pour tous ces conseils, Maître Antonia Calderoli-Lotte de la Chambre des notaires du Bas-Rhin.